lacune dans les discours de Bernard Crétaz. Il ne parle jamais de la prière. Et quand même, la prière et l'offrande de sa vie sont les raisons profondes de l'entrée de ces femmes dans un monastère. C'est ce que tu penses ?
Mm-hmm. Ah oui, parce que c'est...
À la montre, elle prie 4h15 exactement par jour. Je dois aussi donner un avis sur le recrutement des moniales à la visitation, et peut-être dans les autres monastères. Il n'est plus tout à fait le même qu'il y a 33 ans. Hein. J'ai fait plusieurs séjours à Voiron avec le maximum de liberté. Lorsque je me promenais dans leur domaine à la recherche de photos témoignant de leur vie à Grest, ce n'était pas vraiment autorisé, hein, je signale. Ce n'était pas vraiment autorisé de parler avec les religieuses, mais enfin, je l'ai fait quand même. Malgré cela, certaines d'entre elles m'ont fait quelques confidences. Et autrefois, dans les familles nombreuses, lorsque certaines filles, parmi les filles d'une famille, demeuraient célibataires, on les envoyait volontairement au couvent pour s'en débarrasser avec une dot ou quelques vieilles armoires. Et je le sais parce qu'à la visitation de Thonon, c'est moi qui ai vendu toutes les armoires, tous les objets que pas vraiment des meubles de prix, des meubles paysans, mais qui avaient leur intérêt, que les sœurs amenaient en dot quand elles n'avaient pas d'argent. De nos jours, les choses sont différentes. La vie moderne a permis aux jeunes filles de s'assumer et de prendre seules les décisions les concernant. T'es bien d'accord, toi ?
Ah oui, c'est, bon. C'est responsabiliser
absolument.
La femme.
À mon avis, ce qu'on appelle vocation y a gagné en solidité, ferveur et authenticité. Quand une jeune fille rentre au couvent, c'est qu'elle l'a décidé elle-même, c'est qu'elle l'a décidé, donc. Curieusement, ce sont les familles qui s'y refusent, se révoltent et font tout ce qu'elles peuvent pour les empêcher d'y rentrer et de réaliser leurs projets. Des histoires d'amour contrariées, des mésententes familiales, des deuils à l'origine d'une prise de voile, je n'ai rien entendu de la sorte. Toutes celles qui m'ont parlé ont ressenti le besoin intense au fond d'elles-mêmes de rejoindre la communauté de leur choix. Cette passion au cœur d'elle-même, cet appel profond, impératif, je me demande s'il est possible de l'expliquer, de le décortiquer pour en comprendre le mécanisme. Il est synonyme de mystère. Explique-t-on un mystère ? Et peut-on faire photographier un mystère ? Hein ? On m'a posé la question à la télévision suisse romande, peut-on photographier la prière ? J'ai répondu non. Et pourtant, sur mon livre d'or, l'auteur de l'émission a écrit oui.
Je crois qu'en tout cas, vous avez photographié, Madame Sautier, la ferveur, l'ouverture, si je peux employer ces mots, une sorte de plénitude, je dirais. Et je ne sais pas si ces mots-là, enfin, c'est ce que moi j'ai ressenti en regardant le visage de ces femmes. Comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup regardé les visages des femmes. Moi, c'est vrai qu'en lisant à la fois les phrases de Bernard Crétat, puis ensuite les textes qui seraient les réponses des religieuses, soit de par les règlements qu'elles ont à suivre, soit parce que les commentaires qu'elles en font, j'avais envie de me dire, mais est-ce que je ne vais pas trouver encore une autre réponse dans les visages de ces femmes sur les photos ? Et parfois, je trouve que vos photos sont un peu une réponse à ces remarques, parce que le visage de ces femmes, ce qu'elles sont en train de faire, les échanges qu'elles ont l'air d'avoir entre elles, même sans parler, on ne sait pas, puisque les photos, évidemment, ne nous disent pas s'il y a du son ou pas de son, mais on sent qu'il y a une communication, effectivement. Mais tout ça n'empêche pas, malgré tout, je trouve, dans le monde contemporain, de se poser un certain nombre de questions. Parce que de dire ces femmes acceptent, font ce choix d'entrer dans ce genre de vie... J'en suis convaincue. Je ne crois pas qu'on peut obliger aujourd'hui des gens à vraiment choisir ce genre de vie en dehors de leur propre choix personnel, du moins chez nous en tout cas. Mais par contre, ça n'empêche pas qu'on puisse se dire mais pourquoi le font-elles ? Pourquoi, dans un monde qui a besoin dans plein d'endroits, par exemple, qu'on les aide parce qu'ils vivent dans cette situation tragique, ne choisissent-elles pas plutôt de se mettre au service de ces gens-là plutôt que de choisir la prière, la contemplation comme une façon de servir leur croyance et leur foi en un Dieu ? Par exemple, c'est une question qu'on pourrait se poser. Pourquoi, quand elle parle de fraternité, quand elle parle de communauté, ne vivent-elles pas avec le monde, cette communauté ? Vivent-elles enfermées ? Parce que malgré tout, même si vous dites qu'elles ont des contacts avec l'extérieur, et on le voit bien, d'ailleurs, il y a une très grande différence, et c'est très frappant, entre les photos que vous avez faites à Thonon et à Voiron, il n'y a jamais de laïcs dans les photos que vous avez faites à Thonon, alors qu'il y en a plein dans les photos que vous avez faites à Voiron. Hein. Donc là, on le voit très fortement. Malgré tout, je crois qu'on peut quand même se poser des questions sans être peut-être aussi radical et provocateur que Bernard Créta. Alors, je ne sais pas, Anne Ranqui, vous finalement, qu'est-ce que vous dites de ça ? Est-ce que quelqu'un, une de ces femmes, a pu vous dire, par exemple, est-ce qu'elle a l'impression de vivre un sacrifice ? On parle de sacrifice dans certains de ces endroits, de ces textes.
Un sacrifice, non, je crois que le mot, il est très fort, bien qu'on puisse l'utiliser, mais pas au sens courant où on le prend, où c'est vraiment... Non, il y a le don de soi, ça c'est clair, c'est là, c'est présent. Hein.
Le renoncement à la famille, le renoncement aux enfants, le renoncement à la vie de couple, le renoncement au travail dans une...
Le renoncement,
etc. Il y a beaucoup de choses.
Disons, le renoncement surtout à la famille et tout ça, on ne peut pas dire qu'elles renoncent à leur famille. Ce n'est pas une négation du monde extérieur. Loin de là, c'est une plus forte communion. C'est un autre moyen de communier avec le monde extérieur. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a un renoncement et l'unique renoncement dont on m'a parlé, c'est le renoncement de soi. Et ce n'est pas le renoncement du frère, de l'ami perdu. Non, pas du tout, parce qu'elles sont tout à fait en contact avec. Et puis... Et elle ne pleure pas sur une vie passée. C'est une continuation d'une vie, bien souvent pour ces femmes qui ont été, même les plus jeunes, ont eu une vie assez mouvementée, bien remplie. Je veux dire, ce n'est pas des personnes naïves qui sont rentrées dans un monastère. On n'en veut pas d'abord. La visitation, il y a 6 ans de noviciat, il y a 6 ans pour vraiment être sûr qu'on va rester au couvent. Donc ça met le temps quand même aux personnes de voir si, oui ou non, là c'est l'appel de Dieu ou c'est le renoncement à justement une quelconque difficulté extérieure. Parce que les difficultés auxquelles elles vont être confrontées dans la vie, dans leur vie monacale, c'est des difficultés, c'est un face-à-face constant avec soi-même, c'est apprendre à communiquer dans le silence, c'est apprendre à comprendre au-delà des mots. Et c'est des difficultés qui sont quand même, c'est pas seulement de temps en temps, c'est des difficultés constantes. Mais il y a de tels bonheurs que quand elle vous parle, il y a de telles joies, une telle intensité, une telle ferveur qui fait que il n'y a pas de justificatif à ce choix de vie. Je veux dire, personne ne justifie pourquoi on va vivre en famille, par exemple. Mais pour elle, c'est pareil et on ne justifie pas. Je sais qu'il y a eu une discussion justement sur le fait qu'il y a tellement d'horreurs dans le monde qu'elle serait peut-être plus utile aux yeux de l'extérieur, aller donner leur force pour les enfants qui meurent de faim ou je ne sais quoi. Mais c'est une autre manière de communiquer avec ce monde-là. C'est un monde qui est omniprésent. Dans leur louange, elles chantent aussi bien les joies de l'homme que les malheurs de l'homme. Et c'est très et tout ça, c'est très sincère. C'est pas de la bondieuserie. Moi, je suis loin d'être une fervente et une religieuse. Tout, mais c'est très sincère et c'est constant. On le sent à chaque moment de la journée que elles sont très à l'écoute de ces souffrances humaines et des joies. Parce qu'on parle toujours du malheur du monde, mais elles savent aussi rire. Elles savent aussi être des femmes. C'est ça, c'est qu'on oublie souvent. On dit monial, on dit on visite Andine, mais avant tout, c'est quand même des femmes. Et ça, elles le disent. En tout cas, la sœur avec qui j'étais en contact presque tout le temps, qui est la sœur archiviste de la visitation à Voiron, la première chose qu'elle m'a dit, mais avant tout, Anne, je suis une femme. Il faut quand même pas l'oublier, avec ce que cela implique, ces interrogations intérieures et tout ça. Ça, c'est pas parti du jour au lendemain parce qu'on a ouvert la grille et puis qu'on est rentré dans un monde qui est loin d'être sécurisant, celui du couvent.
Si elle lisait les phrases de Bernard Créta, à votre avis, est-ce qu'elle serait très choquée ?
Oh oui.
Vous pensez ?
Moi, je pense que c'est important.
Moi, je dirais que si elles ont le contexte, évidemment, que quand on les lit comme ça, qu'il n'y a pas les photos, qu'il n'y a pas de... moi, je dirais que c'est des choses auxquelles elles ont été déjà confrontées, que ça fait des siècles qu'on raconte des choses comme ça, qu'il y a eu une littérature très, très, très large sur le sujet, et puis que Bernard Créta a repris des choses qui ont déjà été dites. Donc, à la limite, moi, bien sûr, peut-être que ça les choque, mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas si sûre que ça les choquerait.
Parce qu'elles sont en contact avec l'extérieur, vous le disiez, soit par les gens qu'elles rencontrent autour du monastère. Mm-hmm. Mais je lisais aussi dans une de ces réglementations qu'on ne conseille pas une utilisation abusive, mais ça veut donc dire qu'elle existe, de la télévision, des journaux, bien de la radio, du téléphone, donc des contacts avec l'extérieur.
Oui, de cette manière, il y a donc les communautés environnantes, c'est-à-dire les laïcs qui sont là très présents, qui leur donnent un coup de main pour certains travaux. Mm-hmm. Comme, je sais que moi, quand j'y étais, c'était le ramassage des pommes de terre et que tout le monde s'y est mis à pattes. Bon, c'est des choses, mais c'est quand même des... Et elle parle, le silence est là, mais c'est pas une règle de vie comme le Carmel. C'est une... Saint François de Sales a toujours voulu quelque chose de doux pour des sœurs, pour des femmes de petite nature et des veuves. Ça veut dire que il savait déjà que ça allait être des femmes qui ont une expérience de vie, qui ont déjà une personnalité forte, solide, et non pas des vierges effarouchées qu'on va modeler suivant une certaine règle. Donc elles sont encore actuellement, c'est des femmes qui ont de l'instruction, c'est pas, s'il y a des femmes qui sont issues du milieu paysan, il y a de tout. Tout ça, il faut y modeler, il faut s'arranger avec. Donc l'extérieur donne, en fait, reproduit la société comme... Pour moi, c'est la même chose que notre société à l'extérieur. Enlever l'aura religieux, j'ai enlevé une fois l'aura religieux et je me suis dit, je me retrouve dans un groupe similaire à d'autres groupes. Simplement, c'est cette valeur première, la gratuité, qui fait que ça change toutes les données. Mais disons qu'au niveau des rapports humains, il n'y a rien de changé, ça reste des femmes et voilà.
Quand elles vous disent « je suis femme avant tout », elle veut dire quoi par là? Qu'est-ce qu'elle met en avant quand elle s'affirme en tant que femme? Qu'est-ce que...
Ben, ça veut dire femme, être humain, hein. Bon, parce qu'elle m'a pas dit on est des hommes, mais... Et ça veut dire que simplement, bon, ben, que ça a été dur de quitter le monde, que c'est pas quelque chose qu'on fait facilement comme ça, qu'on y réfléchit et tout, qu'il y a bien sûr la chasteté, tout ça, la sexualité, ça, on m'en a aussi parlé. C'est pas un sujet tabou, c'est quelque chose qui se gère, hein. Qu'elles sont là pour, dans un groupe, elles ne choisissent pas la communauté antérieure à elle-même. Donc elles vont devoir s'habituer à cette nouvelle famille, l'apprivoiser et tout ça. Elles, tout ce qu'elles font, c'est le don d'elles-mêmes. Donc être femme, ça veut dire qu'il y a tout, il y a des choses auxquelles elles vont renoncer, il y a des choses qu'elles vont découvrir aussi en ayant cette communauté comme miroir. Elles se découvrent elles-mêmes tout au long de leur vie. En tout cas, la sœur me le disait. C'est une constante redécouverte de soi-même, de son état de femme, de comment gérer ça, de comment... c'est des conflits, il y a des conflits, mais il y a aussi des joies, comme elle me disait. Donc bien sûr que quand on dit être femme, c'est bien sûr que la sexualité, ça ne faut pas le nier. Je veux dire, le problème de la chasteté, c'est quelque chose qui doit se dominer, je ne sais pas, en tout cas qui se sublime d'une certaine façon au fil du temps, je pense.
Elles en parlent, vous disiez?
Oui,
c'est des conversations ouvertes qu'elles ont entre elles?
Entre elles, j'en sais rien, mais en tout cas, étant donné que moi, être femme, ça m'a aussi, j'ai eu la même réaction que vous. Et puis, j'ai demandé ouvertement, et elle m'a tout à fait répondu. Mais je ne me souviens plus exactement ce qu'elle m'a répondu, parce que ce n'était pas, dans le propos. Et puis moi, je n'étais pas dans un état d'esprit... l'état d'esprit des questions de, par exemple, Bernard Créta, pas du tout. Comme je n'étais pas dans l'état d'esprit à me dire est-ce inutile ou utile ce qu'elles vivent. Pour moi, elles avaient choisi leur vivre. Et l'existence de Dieu, moi, je l'ai acceptée. Hein, je veux dire, au départ, je ne me suis pas posé de questions. Si vous voulez, il y a quand même certaines choses que je me suis dit, bon, ben voilà, c'est comme ça. Et puis, on ne va pas remettre ça en question, parce qu'autrement, alors, je me serais complètement perdue. Donc, voilà.
Oui, je crois qu'on va peut-être conclure sur cette idée de l'inutilité, parce que pourquoi avoir choisi de dire cette façon de vivre est-elle utile ou est-elle inutile ? Il y a tellement de choses dans le monde dont on peut se demander si elles sont utiles ou inutiles, que ce soit la violence, comme ce soit des choix qu'on fait dans la vie. Il y a des choses, par exemple, j'ai la sensation que beaucoup de gens sont très attirés par le mysticisme indien, par le mysticisme tibétain. Ils ne se posent pas la question de savoir si c'est utile ou inutile. Et pourquoi la vie mystique chez nous, enfin qui ressemble plus à notre culture judéo-chrétienne, qui est plus attachée à cette culture-là, serait-elle plus inutile que l'autre ? Est-ce que vous, ce soir, Anne, qui allez devoir animer une conférence sur le thème de l'inutilité, est-ce que vous allez rentrer sur ce thème-là ?
C'est vrai que ça m'a posé pas mal de problèmes parce que moi, c'est pas une question qui m'est apparue pendant mon travail. Donc, tout d'un coup, je me suis sentie projetée dans ce thème-là, qui en plus me touche pas vraiment. Hein. Je dois dire que moi, ça m'a pas scandalisée, vie inutile ou pas, parce que je trouvais que c'était effectivement une question qu'on pouvait se poser alors surtout. Et puis, moi, j'ai préféré parler de gratuité. Cette gratuité que, effectivement, nous, on a un peu perdue et qu'il faut être plus performant qu'autre chose, alors que c'est simplement des valeurs qui n'apparaissent pas vraiment au couvent. Et ça, bien qu'elles, ça ne veut pas dire qu'elles ne les connaissent pas, parce qu'elles sont confrontées à ces valeurs, la rentabilité, etc., la concurrence, puisqu'elles doivent travailler pour subvenir à leurs propres besoins. Donc elles connaissent tout ça, mais elles essayent de préserver, parce que c'est quand même la contemplation, la profession de contemplative, c'est quand même la première chose, c'est leur raison, et la contemplation, c'est pas de travailler. Donc c'est quand même la gratuité qui est en premier dans leur vie et elles essayent de sauvegarder même par rapport à leur travail. C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait l'espèce de critique sur le vœu de pauvreté, ça signifie simplement qu'à l'heure actuelle, parce qu'elles ne vivent pas comme au Moyen-Âge, que le couvent ne va pas faire de bénéfices. Il n'est pas là pour faire des bénéfices. Il est là pour vivre. Avant, on leur donnait des subventions. Avant, elles arrivent avec leur dot et tout. Maintenant, c'est fini. Elles se sont adaptées. Comment elles se sont adaptées ? Elles prennent des travaux qui s'harmonisent avec leur vie. Elles ne vont pas changer leur vie en fonction des travaux, loin de là. Elles s'harmonisent et voilà. Et donc, elles essayent de mettre en premier lieu la gratuité. Et puis, c'est quand même le message qu'elles font passer aussi vis-à-vis des autres. C'est que l'amour inconditionnel ne demande pas de retour. Voilà.
Madame Sautier, qu'est-ce que vous avez pensé du titre donné à Faux Photos ? Parce que c'est non plus pas vous qui l'avez choisi.
Non, pas du tout. Ah non, non, absolument pas. Et je dois dire que j'ai eu un certain mal à le faire accepter des religieuses en question. Il a fallu que je leur explique qu'il y avait un énorme point d'interrogation après et que c'était là qu'il fallait accrocher ses regards et non pas sur le reste du titre.
Et elles ont été convaincues ?
Assez, je dois dire. Mais vous savez, les religieuses autrefois étaient pour la plupart des campagnardes, mais maintenant on trouve des professeurs, on trouve des gens tout à fait qui ont été à l'université, qui ont eu de vrais travaux, enfin qui sont intéressés, qui ont eu une vraie vie comme tout le monde. La supérieure a été infirmière chef pendant des années. C'est des femmes qui ont eu une vie avant d'être de choisir le monastère. Et bon, eh bien, elles comprennent, disons. Elles comprennent ce qu'on leur explique. Elles ont compris le point d'interrogation.
Alors, je crois qu'on va convier toutes nos auditrices et nos auditeurs à prolonger cette discussion qu'on aimerait bien prolonger. On n'était pas sûr de tenir une heure et demie, mais je crois qu'on pourrait tenir un long moment encore, n'est-ce pas, Mme Sautier ? Vous auriez encore sûrement beaucoup de choses à nous raconter. Oui. Alors, ce que je propose, c'est que nos auditrices, si ça les intéresse de poursuivre la discussion, rejoignent tout à l'heure Anne Ranqui à l'annexe du musée d'ethnographie, annexe de Conches, 7 chemin Calandrini à Genève. Pour poursuivre cette discussion, parce que Anne, vous continuerez la discussion sur de l'inutilité de la vie par rapport à votre expérience au couvent de la Visitation à Voiron dans l'Isère. Madame Sautier, vous y serez, vous avez dit que vous alliez soutenir Anne Ranqui dans ce moment-là. Donc si jamais nos auditrices peuvent toujours vous rejoindre aussi lors de cette conférence, je crois que ça vaut la peine sûrement d'avoir des conversations prolongées avec vous sur cette question-là, parce que chacune chacune doit avoir ses propres interrogations sur cette vie-là. En tout cas, je vous remercie infiniment d'être venues toutes les deux. Anne Ronqui, sachant que vous allez encore devoir tenir le crachoir un bon moment tout à l'heure, merci tout particulièrement. Et j'encourage nos auditrices à aller voir cette exposition, parce que je crois que les phrases de Bernard Créta, c'est une chose, c'est des interrogations, et puis les images que nous propose Madame Françoise Sautier, c'est une autre, et ça vaut la peine d'aller confronter les deux expériences. Alors, encore une fois, merci, et peut-être aurons l'occasion de poursuivre ainsi la discussion. Alors, toute cette semaine est la semaine de l'inutilité au musée d'ethnographie annexe de Conches, puisque chaque jour, il y a une autre conférence sur ce thème. Ce n'est pas seulement celui de l'inutilité de la vie contemplative en monastère. On vous parlera aussi de l'inutilité de l'artiste en compagnie d'Anne Compagnon, qui est artiste et sociologue, de l'inutilité aussi des sciences sociales avec Gérald Berthoux. Et puis, Et vendredi encore, en principe, je ne sais pas. On se demandait s'ils l'avaient trouvé. Non ? Vous savez d'emblée, Madame Sautier, non, ils n'ont pas. Normalement, ce devait être une religieuse qui devait venir parler d'unité de la vie contemplative, mais je crois que là, Bernard Créta avait sous-estimé le fait qu'une contemplative, elle reste justement, elle fait le choix de rester dans son couvent, elle ne va pas venir s'adresser aux gens. En tout cas, tous les soirs, vous avez une visite commentée de l'exposition par Bernard Créta à 18h et la conférence débat, eh bien, c'est à 20h. Alors, nous vous encourageons à y participer, en particulier à celle de ce soir, mercredi 13 mai, avec Anne Ronqui qui vous parle de son expérience au couvent de la Visitation à Voiron.
I still have my philosophy.
Pour finir cette émission, encore quelques instants en compagnie de Meredith Mong. Et quant à moi, je vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Vous êtes à l'écoute Ondes Femmes 93.8 MHz, l'émission Remue Ménage, encore de la musique avec Patti Smith.
And bending low.